Écoutez bien la chronique qui suit avec le Dr Poulman de la clinique chiropratique Gamelin. Votre corps vous en sera reconnaissant. La clinique chiropratique Gamelin, 73 boulevard Gamelin.
Avec le docteur Nicolas Poulman de la clinique chiropratique Gamelin. Je ne me tromperai pas, je ne dirai pas Maguelin, je vais dire Gamelin. Comment ça va, doc?
Ça va super bien, toi, Michel?
Ben oui, ça va bien. Alors, je recommence. La sténose spinale.
Exactement, tu l'as super bien prononcé.
Ouais, ouais,
sténose
ouais.
spinale, qui est effectivement une affectation de la colonne vertébrale et qui fait référence à l'aspect postérieur, donc à la partie arrière de la colonne vertébrale. Au centre de la partie arrière des vertèbres va passer ce qu'on appelle la moelle épinière.
Mm-hmm.
La moelle épinière qui est en fait l'extension du cerveau et à partir de laquelle ben, va se dégager tous les nerfs rachidiens, tous les nerfs spinaux.
Je veux comprendre. La moelle passe dans la colonne vertébrale.
Passe dans la colonne vertébrale à l'arrière.
Okay.
Puis à chaque vertèbre, donc à chaque niveau vertébral, va sortir une paire de nerfs qui va être responsable de contrôler tout ce qui est dans notre corps. Donc de la sensibilité à la force musculaire, à notre système cardio-respiratoire, digestif et j'en passe. Tout ça, c'est contrôlé par notre système nerveux au moyen des nerfs qui ensuite convergent vers la moelle épinière et vers le cerveau.
OK. La sténose là, arrive en jeu quand là-dedans? Là?
Donc, la sténose, c'est un mot qu'on utilise pour désigner un rétrécissement du canal où passe la moelle épinière ou les nerfs.
OK.
OK. Okay. Et ça, ben, ça se passe principalement lorsqu'on devient de plus en plus sage dans notre vie.
De plus en plus vieux.
De plus en plus vieux, mm-hmm. Exactement ça. Et les études les plus récentes sur la sténose spinale nous viennent du Japon. Pourquoi? Parce que c'est l'une des populations les plus vieilles, entre guillemets, au monde.
Ouais.
On calcule en ce moment que 9 % de la population japonaise souffre de sténose spinale.
OK, mais la sténose, juste pour encore bien comprendre, les nerfs passent dans la colonne, c'est comme un tuyau dans le fond, là, mais ça sort à quelques endroits aux vertèbres.
En fait, ça sort à toutes les vertèbres.
Toutes les vertèbres.
Exact.
Et là, c'est que le trou, le tuyau se rétrécit avec le temps.
Exactement ça. Et il okay. y a des raisons pour lesquelles ce tuyau-là, ce conduit-là, ce canal-là se
ouais.
rétrécit.
Oui.
Et la plupart du temps, ça va être associé à une dégénérescence au niveau du cartilage, donc à de l'arthrose.
Okay.
Ça peut être causé par d'autres choses,
mm-hmm.
mais la plupart du temps, c'est associé à de l'usure.
Okay.
D'où le lien directement avec le vieillissement de la population.
Ouais.
On évalue que d'ici 2030, 25 % de la population canadienne va avoir plus de 65 ans.
Oui, parce qu'on a dit dans les statistiques là, que c'est incroyable, l'espérance de vie augmente tellement à chaque année. On est rendu à 79 points quelques chez les hommes et 84 ans ou presque, 83,9 chez les femmes.
Exact. Donc, si on essaie d'apprendre de ce qui se passe ailleurs dans le monde puis qu'on regarde ce qui se passe au Japon en ce moment où la sténose spinale affecte une grande partie de la population. On parle de presque 10 % de la population qui est affectée par ça. Et on voit la population canadienne vieillir. On peut s'attendre à ce que cette condition-là de santé au niveau du dos nous affecte ici aussi. Il y a une raison derrière ça, le manque d'activité physique et la sédentarité. En fait, c'est
ben
les deux
là,
la même chose.
Je veux arriver à ça. Là. Une fois qu'on le sait que le canal, le tuyau rétrécit, quelles conséquences ça a dans nos vies de tous les jours? Ça, de vieillir, c'est une chose, mais de savoir que la moelle est passe dans un conduit qui est plus petit maintenant.
Alors, il y a des gens qui vont se reconnaître avec les symptômes que je vais énumérer à l'instant. La première chose, les gens vont bien entendu sentir une douleur au bas du dos ou au niveau des fesses et des deux côtés. Et ça peut être associé de symptômes qui vont descendre dans la jambe, que des gens vont parfois faire référence comme étant « j'ai mal à mon nerf sciatique »
ouais.
ou à une sciatalgie.
Des fois, ça va être derrière la jambe gauche, derrière la jambe droite, jusque dans l'arrière du genou. Là.
Exact.
Okay.
Et en fait, jusque dans le pied même.
Oh.
Et c'est là où il faut faire attention au diagnostic différentiel parce qu'il y a plusieurs conditions qui peuvent donner ce type de symptômes-là,
mm-hmm.
notamment une hernie discale, notamment une compression musculaire. Ce qui va venir différencier puis influencer le diagnostic, en fait, pour une sténose spinale, les gens... Normalement, quand ils vont s'asseoir, ils vont avoir moins de symptômes. Les gens qui vont avoir un problème d'origine discale, lorsque eux, ils s'assoient, leurs symptômes vont être augmentés.
C'est sûr.
Parce que ça augmente la pression sur le disque.
Je confirme.
Donc, les gens qui ont un problème de sténose, eux, ça ne fait pas ça. L'autre chose, le symptôme le plus caractéristique, c'est les gens qui ne sont pas capables de marcher longtemps sans avoir de symptômes qui leur descendent dans la jambe. Fait que tous les gens qui doivent s'appuyer sur le panier d'épicerie lorsqu'ils vont faire leur épicerie, qui vont au centre d'achat et qui ne sont pas capables de marcher plus que 10 minutes avant d'avoir des symptômes, on peut déjà penser à une possibilité d'une sténose spinale.
OK. Ça, c'est bien beau. On sait c'est quoi. On sait ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça fasse ça?
La première chose à faire, c'est de rester actif. Mais en termes de traitement, parce que je me doute que c'est vers là que tu veux aller, il y a deux choses. Soit il va dans la voie conservatrice, qui est toujours la première étape, et enfin, il y a la voie chirurgicale. Et ce que les études nous démontrent en ce moment, c'est qu'on est bien mieux de commencer par la voie des traitements conservateurs pour maintenir nos patients actifs afin d'éviter une chirurgie. Parce que la plupart du temps, lorsqu'une chirurgie qui est faite, les symptômes ont tendance à revenir. C'est pour ça que les orthopédistes neurochirurgiens sont de plus en plus frileux à opérer les gens lorsqu'on sait qu'ils sont en mesure de rester actifs.
Je comprends.
Parce que les symptômes ont tendance à revenir. Maintenant, comment qu'on fait pour traiter les gens qui souffrent de sténospinale? Là, c'est presque arrangé avec le gars des vues, mais en chiropratique, on est formé pour évaluer, diagnostiquer et traiter ce genre de condition-là qui n'a pas de cure. Donc, on ne peut pas guérir de la sténospinale, mais on peut contrôler les symptômes.
Alors, c'est de la manipulation de votre part au niveau de la colonne vertébrale qui va soulager, qui va... Parce que le tuyau, le canal, on ne peut quand même pas l'élargir une fois qu'il a rétréci. Là.
Très bonne question. En fait, je vais répondre en disant non. OK? Ça commence pas par un traitement chez les chiro pour traiter la sténospinale. La première chose à se rappeler, c'est que le canal... lorsqu'on amène le dos vers l'arrière, va avoir tendance à rétrécir.
Ouais.
Donc, la plupart des gens vont avoir de la difficulté à se tenir le dos droit, vont avoir le dos penché vers l'avant.
Mm-hmm.
Une partie du traitement va passer par des exercices spécifiques pour accompagner le patient dans son quotidien pour y permettre de contrôler l'angulation de son dos. Notamment du vélo stationnaire, mais bien ajusté, des exercices en piscine, des exercices pour favoriser un meilleur mouvement au niveau du bassin, et j'en passe. Ça, c'est fait conjointement des traitements qui sont faits en clinique pour aussi contribuer à ouvrir davantage l'aspect postérieur de la colonne vertébrale pour augmenter l'espace puis faire en sorte que les patients soient fonctionnels. Notre objectif en clinique, c'est de faire en sorte que nos patients puissent marcher plus longtemps qu'ils le faisaient avant, puissent centraliser leur douleur, donc de diminuer le plus possible la douleur dans la jambe pour qu'elle se concentre dans la fesse ou dans le bas du dos. Ça, c'est bien, bien important. Et lorsque les patients nous consultent puis qu'on a un diagnostic de sténose, au départ, les cartes sont mises sur la table à savoir que ce n'est pas quelque chose qui va être guéri, mais c'est quelque chose qui peut être contrôlé en termes de symptômes. Alors, pour les gens qui sont aux prises avec des douleurs qui descendent dans la jambe ce matin, qui ont tout essayé et qui ont un diagnostic de sténose, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il y a de l'espoir. Vous pouvez contrôler ces symptômes-là. Oui, ça demande un effort au quotidien, mais vous pouvez éviter une chirurgie dans certains cas.
Mais le traitement qu'on commence là, ça va pas partir de toute façon. Fait qu'il va falloir recevoir ces soins-là, mais pour toujours, dans le fond, parce que ça va pas... Je veux pas dire que vous allez pas améliorer la situation, mais on va pas réouvrir le canal en question, là.
Tout à fait. Et là, qu'on s'entende sur la chose suivante, parce que il y a un certain folklore qui nous accompagne qui dit qu'on va chez le chiro.
Chiro à toutes les semaines pendant 10 ans pour rien.
Pour rien, exactement ouais, ça. Ouais. Avant tout, c'est une question de choix. Puis dans un deuxième temps, les gens qui souffrent de sténose sur le long terme, si vous allez voir votre professionnel de la santé à toutes les semaines ou deux fois par semaine pour le restant de vos jours, ça c'est mon opinion à moi, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les gens qui souffrent de sténose spinale puis où on est rendu en traitement plus de type conservateur, donc préventif, la fréquence va être beaucoup plus grande. Donc, on parle de quelques visites par année pour assurer un entretien au niveau de la souplesse puis de la mobilité du dos, puis d'ouvrir l'espace arrière du canal, en fait, par des exercices. Maintenant, ces exercices-là sont super importants à faire à la maison. Parce que si le travail d'équipe entre le chiro et le patient n'est
je
pas bien fait...
Je soupçonne que bien des gens ne les font pas.
Écoute, je ne commenterai pas.
Je soupçonne que c'est comme ça.
En fait, en terminant, souvent, les gens viennent voir à dernier recours et ils vont avoir tendance à faire davantage leur exercice que lorsqu'ils consultent d'autres professionnels de la santé.
Clairement. OK, Doc, merci beaucoup des infos. Si jamais on avait besoin d'informations, prendre un rendez-vous, comment on peut faire?
Chiropratiquegamelin.com, 819-595-1319.